Vous êtes Monsieur Dostoïevski. Je ne me trompe pas.
Non, c'est bien moi. J'espère vivre encore un peu de temps. J'ai une question importante à éclaircir. C'est une question qui consciemment et inconsciemment m'a torturé tout au long de ma vie. Ce sera mon dernier écrit, ma dernière confession. Le personnage sera comme moi-même un enfant de notre siècle, empreint de doute et de scepticisme.
Ça peut pas faire de mal.
Au cours de sa vie, il a été de tour à tour fanatique, athée, croyant sectaire, athée de nouveau. Jusqu'à sa mort, il sera tourmenté par la question de l'existence de Dieu. C'est un défi majeur pour moi. Un défi qui va épuiser mes dernières forces. C'est grâce à ça qu'on se souviendra de moi.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Sachez-le, mes bien-aimés, chacun de nous est coupable pour tous et pour chacun sur la terre. Cela est hors de doute. Non seulement pour la faute commune du monde entier, mais personnellement, pour tous les hommes et pour chaque personne sur la terre. Cette conscience est la couronne du chemin de l'ermite et de tout homme d'ailleurs sur cette terre. Car les ermites ne sont rien d'autre que des hommes, mais juste seulement comme devraient l'être tous les hommes sur terre. C'est là seulement que notre cœur pourrait se fondre dans un amour infini, universel, qui ne serait jamais rassasié. Alors chacun de nous aura la force de gagner le monde entier par la force de son amour et de laver les péchés du monde par ses larmes. Que chacun marche près de son cœur, que chacun se confesse sans fin à soi-même. Ne craignez pas votre péché, même si vous en prenez conscience, pourvu qu'il y ait repentir, mais ne marchandez pas avec Dieu. Surtout, je vous le dis, rabaissez votre orgueil. Rabaissez votre orgueil devant les petits, rabaissez tout autant votre orgueil devant les grands. Ne haïssez pas non plus ceux qui nous rejettent, qui nous insultent et qui nous calomnient. Ne haïssez pas les athées, les mauvais penseurs, les matérialistes, même les méchants parmi eux. Ne soyez point avaricieux. N'aimez ni l'or ni l'argent. N'en gardez point. Croyez et maintenez la flamme. Portez-la au plus haut. Cet appel à l'humilité et à l'amour est prononcé par un moine mourant dans l'une des plus belles pages des frères Karamazov. Avec ce dernier roman publié en feuilleton à partir de 1879, Dostoïevski fait le portrait d'une famille infernale dans la Russie du 19e siècle. Au sein de ce clan, il n'y a pas de mère, elles sont toutes mortes. Mais il y a un père, Fyodor Pavlovitch, un homme dépravé et odieux qui ne s'est occupé d'aucun de ses fils. Le premier d'entre eux s'appelle Dimitri, Mitya. Rejeté dès le plus jeune âge par son père, il lui voue une haine sans faille, mais partage avec lui les mêmes passions, l'argent et le sexe. Il est sauvage, parfois violent, mais il a une bonne âme. Le deuxième, Ivan, est né d'une autre union. C'est un intellectuel en pleine rébellion, un idéaliste passionné qui doute de la foi et n'admet pas le monde tel qu'il est. Puis vient Alyosha, même mère qu'Ivan. C'est un cœur pur, une âme sensible. Dévoué à Dieu, il n'a qu'un seul souhait, mener une vie monastique et faire le bonheur autour de lui. Enfin, il y a Smerdiakov, l'enfant illégitime, fruit d'un viol. Souffrant d'épilepsie, traité avec dédain, il travaille comme laquais au service de son père Fyodor.
Un peu de cognac, Ivan.
Vous ne pensez pas que c'est assez?
Non, juste un petit verre, hein. Vous vivez loin d'ici. Vous. Toi, dans tes splendeurs pétersbourgeoises, les gazettes des revues littéraires, les pratiques. Si. Et qui sait? Un jour, tu seras célèbre. J'aurais bien mérité ça parce que l'autre, là, votre bol est innocent. Toi, t'as beau vivre dans ton monastère, les ragots y parviennent fort bien.
Notre monastère est un lieu saint, père.
Élevés chacun de leur côté, les quatre frères vont devoir, malgré leurs différences de caractère, apprendre à se connaître et à s'aimer. Ce livre raconte leur affrontement, mais aussi le crime auquel ils vont être confrontés. L'un des frères Karamazov a tué le père. Mais qui ? Ce soir, après Crime et Châtiment et L'Idiot, je vous propose de découvrir cet immense roman qui se lit comme un polar. Dostoïevski peint comme personne l'orgueil, le doute, la souffrance, et il continue de poser cette question essentielle au cœur de toute son œuvre : quelle est la raison d'être de l'homme sur Terre ? Une réunion de famille a lieu dans le monastère d'Alyosha, chez le starets Zosima, vieil homme sage qui souhaite apaiser les dissensions entre le père et ses fils. Tous les fils sont attendus, mais un seul manque à l'appel. Il s'agit de Mitya, qui arrive très en retard. Depuis quelques mois, il est engagé auprès de deux femmes, Katerina Ivanovna, avec laquelle il est fiancé, et Grushenka, la débauchée du village. D'autre part, il réclame à son père une grosse somme d'argent, un héritage qui lui est dû, mais que Fiodor refuse de lui donner. Dès que Mitya entre dans la pièce où est réunie sa famille, son père le désigne sans attendre comme son ennemi. Livre 2, chapitre 6. « Divin et très saint Starets !» s'écria Fiodor, désignant Ivan. « Voici mon fils, la chair de ma chair la plus aimée. Et voici mon autre fils qui vient d'entrer, Dmitri, contre lequel je cherche justice auprès de vous. Jugez, sauvez. Nous demandons non seulement vos prières, mais vos prophéties. Parlez sans jouer les innocents du village et ne commencez pas par offenser votre famille, répondit le starets d'une voix faible et épuisée. La fatigue le gagnait à vue d'œil et de plus en plus il perdait très clairement de ses forces. Une comédie indigne que je pressentais en me rendant ici, s'exclama Dmitri, qui lui aussi, dans son indignation, avait bondi de sa place. « Pardonnez-moi, mon très révérend père, » fit-il, s'adressant au starets. « Je suis un homme inculte, et je ne sais même pas comment vous appeler, mais on vous a trompé, et vous êtes trop bon de nous avoir permis de nous retrouver chez vous. Mon père ne recherche que le scandale, et son calcul, il faut le lui demander. Il a toujours un calcul, mais ce calcul, aujourd'hui, je crois que je le comprends. « Ils m'accusent tous !» Tous, ils m'accusent, criait à son tour Fiodor. On m'accuse d'avoir caché dans ma botte l'argent de mes enfants, de les avoir laissés en chemise. Mais permettez, est-ce qu'il n'y a pas de tribunaux pour ça? Là-bas, on vous le calculera, Dmitri. Et d'après vos propres quittances, vos lettres et vos contrats, de combien vous disposiez, combien vous avez jeté par les fenêtres et combien il vous reste? Tout le monde est contre moi. Et Dmitri, au bout du compte, il me doit même de l'argent. Et pas une petite somme, mais plusieurs milliers de roubles, n'est-ce pas? Et j'ai les papiers pour tout. Toute la ville gronde, n'est-ce pas, de ses débauches. Et là où il a servi, il vous donnait 1000 roubles ou 2000 roubles pour séduire certaines vierges. Ça, Dmitri, c'est des choses qu'on sait, n'est-ce pas, dans les détails les plus secrets. Et moi, n'est-ce pas, je prouverai. Très Saint-Père, vous me croirez? Il s'est fait aimer d'une jeune fille des plus nobles, de bonne maison, avec une fortune, la fille de son ancien chef, un colonel plein de bravoure, qui a fait des campagnes. Il a compromis la jeune fille en lui faisant une demande de mariage. Maintenant elle est ici, maintenant elle est orpheline, elle est fiancée, et lui, sous ses yeux, il fréquente une certaine enjôleuse de la ville. Et pourtant cette enjôleuse vivait pour ainsi dire en mariage civil avec un homme respectable, mais de caractère indépendant, une forteresse imprenable pour n'importe qui, exactement comme une femme légitime, car vertueuse. Eh oui, mais Saint-Père, elle est vertueuse. Et ce qu'il veut, Dmitri, c'est l'ouvrir, cette forteresse, avec une clé en or. Voilà pourquoi, là, en ce moment, devant moi, il fanfaronne. Il veut me dépouiller. En attendant, il a déjà gaspillé 1000 roubles pour cette enjôleuse. Pour ça, il n'arrête pas d'emprunter de l'argent. Et auprès de qui, vous pensez? Je le dis ou je le dis pas, Mitya? Silence! S'écria Dmitri. Attendez que je sois sorti, mais devant moi, je vous interdis de souiller la plus noble des jeunes filles. Déjà, le seul fait que vous osiez faire allusion à elle, c'est une honte pour elle. Je ne le permettrai pas. Il haletait. Mitya, Mitya, s'écria Fiodor d'une voix alanguie, essayant de se tirer des larmes. Et qu'est-ce que tu en fais de la bénédiction paternelle? Si je te maudissais, qu'est-ce qui se passerait, hein? Obscène et hypocrite, lança frénétiquement Dmitri.
et à son père. Qu'est-ce que ça doit être avec les autres, messieurs? Imaginez, il y a ici un homme pauvre mais respectable, un capitaine à la retraite. Il a été dans le malheur, exclu du service, mais pas officiellement, pas par jugement, conservant tout son honneur, chargé d'une nombreuse famille. Et il y a 3 semaines de ça, voici que notre Dmitri, dans une taverne, il vous l'a attrapé par la barbe, il l'a sorti dans la rue et devant tout le monde, il l'a roué de coups. Et pourquoi? Parce que ce capitaine, c'est mon homme de confiance, officieux, dans une de mes petites affaires. Mensonge tout ça. Vrai au dehors, mensonge au dedans, lança Dmitri tremblant tout entier de colère. Père, je ne cherche pas à justifier mes actes. Oui, je le reconnais devant tout le monde, je me suis conduit comme une bête avec ce capitaine, et aujourd'hui je le regrette. Je me ronge de ma rage bestiale, mais votre capitaine, votre avoué, il était allé trouver cette dame-là dont vous dites que c'est une enjôleuse, et s'était mis à lui demander en votre nom qu'elle prenne les traites signées de moi que vous gardez, et qu'elle porte plainte contre moi pour me faire mettre au trou si je continuais à trop vous embêter avec mes calculs sur les revenus. Et vous, maintenant, vous me reprochez d'avoir un faible pour cette dame, alors que c'est vous-même qui lui avez donné des conseils pour me séduire. C'est elle-même qui me le raconte. Et si vous voulez me mettre au trou, c'est uniquement parce que vous êtes jaloux de moi, parce que vous aussi, vous vous êtes mis à importuner cette femme de votre amour. Tout cela, je le sais, elle en riait. Vous entendez ? Et donc vous, mes révérends, cet homme, ce père qui fait des reproches à son fils débauché, messieurs les témoins, pardonnez ma colère, mais je pressentais que ce vieillard perfide nous avait tous rassemblés ici pour faire un scandale. Je suis venu pour lui pardonner. S'il m'avait tendu la main, lui pardonner et lui demander pardon. Mais comme ce n'est pas seulement moi qu'il vient d'injurier, mais une jeune fille des plus nobles, dont moi, je n'ose même pas prononcer le nom tellement je la vénère, je me suis décidé à mettre à jour publiquement tout son jeu. Et ce même si, c'est mon père. Il ne pouvait plus continuer. Ses yeux lançaient des éclairs. Il avait du mal à respirer. Mais tout le monde dans la cellule était bouleversé. Tous, à part le Starets, s'étaient levés de leur place avec inquiétude. Dmitri Fiodorovitch glapit soudain Fiodor d'une espèce de voix qu'on ne lui connaissait pas. Si seulement vous n'étiez pas mon fils, je vous aurais, séance tenante, provoqué en duel, au pistolet, à 3 pas de distance, de l'autre côté du mouchoir. Du mouchoir, conclut-il en tapant des 2 pieds. Il y a chez les vieux menteurs qui ont passé toute leur vie à faire les comédiens certaines minutes où ils jouent tellement leur rôle qu'ils se mettent pour de bon à trembler et pleurer d'émotion. Et ce, malgré le fait qu'au même instant, ou une seconde plus tard, ils sont parfaitement capables de se chuchoter « Mais tu es en train de mentir, vieux dépravé. Tu es un comédien même en ce moment, malgré toute ta sainte colère. » Dmitri se rembrunit terriblement et posa sur son père un regard plein d'un mépris indicible. « Je pensais, prononça-t-il d'une sorte de voix basse et retenue, que je revenais dans ma patrie avec l'ange de ma vie, ma fiancée, pour bercer sa vieillesse, et je ne trouve qu'un débauché jouisseur et le plus sale des histrions. »
« Un duel !»
hurla à nouveau le petit vieux, haletant et postillonnant à chaque mot. « Qu'est-ce que ça fait sur terre, un homme comme ça ?» rugit d'une voix sourde Dmitri, quasiment ivre de colère, en redressant ses épaules comme Alexei et en se retrouvant tout voûté. « Non mais dites-moi, est-ce qu'on peut lui permettre de déshonorer la terre en vivant dessus » continua-t-il, parcourant l'assemblée du regard et en désignant le vieillard du doigt. Il avait parlé d'un ton lent et mesuré.
Vous entendez les moines, le parricide !» cria Fiodor.
Cette scène qui avait touché l'innommable se transforma soudain de la façon la plus inattendue. Soudain, le Starets se leva de sa place. Complètement perdu de peur pour lui et pour tout le monde, Alyosha eut le temps néanmoins de lui soutenir le bras. Le Starets fit un pas vers Dmitri et arrivant juste devant lui, il s'agenouilla. Alyosha se dit qu'il tombait de faiblesse, mais non. Le Starets s'agenouilla et s'inclina devant Dmitri d'un enclin complet, d'un enclin très net et réfléchi, et toucha même le sol avec le front. Un sourire faible luisait à peine sur ses lèvres. « Pardonnez, pardonnez tous !»
murmura-t-il. Dmitri resta quelques secondes comme foudroyé. On s'inclinait jusqu'à terre devant lui. Et qu'est-ce que cela voulait dire? En fin de compte, il s'écria soudain « Oh Dieu !» et se cachant le visage dans les mains, se précipita dehors. À la suite de cette altercation, tout le monde se disperse. Alyosha a été branlé par ce qu'il a entendu, mais surtout par ce qu'il a vu. Jamais le starets ne se serait agenouillé aux pieds de son frère pour rien. Selon lui, c'est un acte important qui entend les prévenir de quelque chose, mais il ne sait pas de quoi. Les jours passent et la situation s'aggrave. Dmitri agresse physiquement son père. La fratrie explose. Ivan, qui nourrit des sentiments pour Katerina Ivanovna, la fiancée de Mitya, prend ses distances. Alyosha, de son côté, assiste au déclin moral de Mitya, qui rompt ses engagements avec Katerina et décide de partir. Livre 3, chapitre 11. Alyosha, regarde cette nuit. Tu vois comme elle est sombre la nuit, et les nuages, et ce vent qui s'est levé. Je m'étais caché ici, sous le saule, je t'attendais, et brusquement je me dis, à quoi sert de s'agiter davantage? Qu'est-ce que je peux attendre? Le saule est là, voilà le mouchoir, voilà la chemise, on peut faire une corde tout de suite, les bretelles en plus, à quoi m'ont tout souillé avec ma vile présence? Et puis j'entends que tu arrives, d'un coup il y a comme quelque chose qui m'a pris, il y a quand même, je me dis, quelqu'un que j'aime. Et le voilà, ce petit bonhomme là, mon gentil petit frérot. Et je t'ai aimé si fort, je t'aimais tellement à cet instant-là, que je me suis dit, je vais me jeter à son cou. Et une idée stupide m'est venue, je vais l'amuser, je lui fais peur. Et j'ai crié comme un crétin. Il baissa la tête et resta pensif. Alyosha, je suis une crapule. Une crapule, sans aucun doute, prononça-t-il d'une voix sombre. Quelle importance si je pleure ou non, de toute façon, une crapule. Transmets là-bas que j'accepte le qualificatif, si ça peut consoler. Bon, et adieu, assez causé. Il n'y a rien de gai. Tu as ta route et j'ai la mienne. Et je ne peux plus te revoir jusqu'à la toute, enfin, dernière minute. Adieu, Alexei. Il serra très fort la main d'Alyosha. Et les yeux toujours baissés, sans relever la tête, comme un vrai fou, il se mit à marcher vers la ville. Alyosha le regardait s'éloigner, sans pouvoir croire qu'il était parti ainsi, soudain, complètement. Attends, Alexei, encore un aveu, rien qu'à toi seul, dit Dmitri, revenant soudain sur ses pas. Regarde-moi, regarde-moi attentivement. Tu vois ici, là, ici, une souillure terrible qui se prépare. En disant « ici », Dmitri se frappait la poitrine avec le poing et avec un air tellement étrange, comme si la souillure gisait et restait enfermée. Justement là, sur sa poitrine, dans un endroit quelconque, sa poche peut-être bien. Tu me connais déjà. Une crapule patentée. Mais sache-le, quoi que j'ai pu faire avant, quoi que je puisse faire ou que je fasse, rien, rien ne peut se comparer dans l'infamie avec cette souillure que maintenant, là, précisément, à la minute précise où je te parle, je porte là, ici, sur ma poitrine, ici, là, ici, qui agit et s'accomplit, et que je suis entièrement maître d'arrêter, que je peux arrêter ou alors accomplir, remarque bien. Eh bien, sache-le que je l'accomplirai, je ne l'arrêterai pas. Je peux encore m'arrêter. Si je m'arrête demain, je peux récupérer une bonne moitié de l'honneur perdu. Mais je ne m'arrêterai pas. J'accomplirai mon projet de crapule. Et toi, tu seras témoin que je te l'ai dit à l'avance, en toute connaissance de cause. La mort et les ténèbres. Pas la peine d'expliquer, tu auras tout en temps et en heure. La ruelle puante et la fille des enfers. Adieu, ne prie pas pour moi. Je n'en vaux pas la peine. Et ce n'est pas du tout la peine, non. Pas du tout. J'en ai pas du tout besoin. Arrière. Et il s'écarta brusquement, et cette fois tout à fait. Alyosha repartit vers le monastère. Mais comment est-ce que je ne le reverrai plus du tout? Qu'est-ce qu'il dit? Se demandait-il frénétiquement. Non, demain, sans faute, je le verrai et je le retrouverai. Je le chercherai exprès. Qu'est-ce qu'il vient de me dire?
was dreaming of you. And from a window across the lawn, I watched you undress, wearing your sunset of purple tightly woven around your hair that rose in strangled ebony curls, moving in a yellow bedroom light. The air is wet with sound, the faraway yelping of a wounded dog, and the ground is drinking a slow faucet leak. And I watched you as you disappeared.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Bouleversé par le départ de Mitya et par la mort imminente de son mentor, Zosima, Alyosha prend une décision radicale. Quitter le monastère et se fiancer avec Lise, une jeune fille paralysée qu'il connaît depuis plusieurs années. Un autre de ses frères veut prendre son envol et quitter l'enfer du lien familial, c'est Ivan. Il lui donne rendez-vous un soir dans une taverne pour lui dire adieu. Il explique à Alyosha qu'il a une soif de vivre telle qu'il lui faut partir, tracer sa route et chercher sa vérité. Livre 5, chapitre 3. Alyosha, je veux vivre. Et je vis même en dépit de toute logique. Bon, je ne crois pas en l'ordre des choses, mais je tiens à ces petites feuilles collantes qui s'ouvrent au printemps. Je tiens au ciel bleu, je tiens à telle personne qu'on se met comme ça, tu me croirais, à aimer, on ne sait pourquoi. Je tiens à tel exploit qu'une personne peut faire et dans lequel j'ai cessé de croire depuis longtemps, mais que je respecte malgré tout, par mémoire atavique, au fond du cœur. Tiens, on t'a servi ta soupe de poisson, bon appétit. Cette soupe, elle est bonne, ils s'y connaissent. Je veux faire un voyage en Europe, Alyosha, et je vais y aller d'ici. Je sais que je n'irai voir qu'un cimetière, mais c'est un cimetière auquel on tient tellement, tellement fort, voilà. J'y tiens, moi, aux défunts qui y reposent. Chaque pierre qui les couvre parle d'une vie passée tellement brûlante, d'une foi si passionnée en son exploit, en sa vérité, en sa lutte et en sa science, que je le sais à l'avance. Moi, je tomberai au sol et je les embrasserai, ces pierres, et je pleurerai dessus, persuadé en même temps de tout mon cœur que tout ça, depuis longtemps, ce n'est plus rien qu'un cimetière et rien de plus. Et ce n'est pas de désespoir que je pleurerai, mais juste parce que je serai heureux des larmes que je pourrai verser. Mon émotion elle-même qui me rassasira. J'aime ça, les petites feuilles collantes du printemps et le ciel bleu, voilà. Là, ce n'est pas par l'intelligence, par la logique, c'est avec les tripes, avec les entrailles qu'on aime, par ces jeunes premières forces qu'on aime. Tu comprends quelque chose à mon galimatia, Alyosha, ou non ? Fit soudain Ivan en éclatant de rire. Je ne comprends que trop, Ivan. C'est par les tripes, par les entrailles qu'on a envie d'aimer. C'est splendide, comme tu l'as dit. Et je suis terriblement content que tu aies tellement envie de vivre, s'exclama Alyosha. Je pense que tous les gens sur Terre, ce qu'ils doivent faire d'abord, c'est apprendre à aimer la vie. Aimer la vie plus que le sens de la vie ? Absolument. Oui, l'aimer avant la logique, comme tu dis, absolument avant la logique. Et c'est seulement à ce moment-là que je comprendrai le sens. La moitié de ton travail est faite, Ivan. Elle est acquise. Tu aimes ça, vivre. Maintenant, il faut que tu travailles un peu sur ta deuxième moitié et tu es sauvé. toi, tu en es déjà à me sauver, et moi, si ça se trouve, je n'ai jamais encore été en détresse. Et qu'est-ce que c'est ta deuxième moitié? Il faut ressusciter tes morts, qui ne sont même jamais morts, si ça se trouve. Allez, passe-moi le thé. Je suis content que nous parlions, Ivan. Les deux frères continuent à parler et à confier à l'autre l'essence même de leur être, ce en quoi ils croient et espèrent. Si Alyosha ne vit que par et pour Dieu, Ivan, lui, doute de lui. Est-ce que Dieu existe? Lui demande-t-il. Est-ce qu'il existe une immortalité? Ivan réfléchit et en vient à cette conclusion. Finalement, ce n'est pas Dieu que je n'accepte pas, dit-il. C'est le monde qu'il a créé. Très attentif à ses paroles, Alyosha reçoit son discours comme une rébellion. Alors Ivan lui propose de lui lire un poème qu'il a lui-même composé. Son titre, Le Grand Inquisiteur. L'histoire du retour contrarié de Jésus-Christ dans l'Espagne du XVIe siècle. Emprisonné avant d'aller au bûcher, Jésus reçoit la visite d'un inquisiteur qui lui explique pourquoi, selon lui, la foi condamne les hommes à la souffrance. Après ce récit, les deux frères se quittent. Ivan se dirige vers la maison de son père, soutenu par une angoisse inexplicable. La présence inquiétante de Smerdiakov, le fils illégitime de son père, le pousse vite à faire ses valises. Le lendemain, il fait ses adieux et part vers un monde nouveau. Alyosha lui retrouve Zosima et lui confie ses inquiétudes. Le starets le met en garde contre une grande souffrance qui attend sa fratrie. Il lui donne aussi un conseil précieux qu'Alyosha s'empresse d'écrire dans un cahier. Si tu te souviens à la nuit, en t'endormant, je n'ai pas accompli ce que je devais, relève-toi tout de suite et accomplis-le. Si tu as autour de toi des hommes haineux et insensibles et qu'ils ne veulent pas t'écouter, tombe devant eux à genoux et demande-leur pardon, car en vérité, toi aussi, tu es coupable s'ils ne veulent pas t'écouter. Et si tu ne peux plus parler avec ces gens aigris, serre-les dans le silence et dans l'abaissement, sans jamais perdre espoir. Et si tout le monde t'abandonne et te chasse, cette fois par la force, restez seul, tombe à même la terre et baise-la, mouille-la de tes larmes, et la terre donnera le fruit de tes larmes, même si personne ne te voit ni ne t'entend dans ta solitude. Crois jusqu'au bout, quand bien même il pourrait arriver que tout le monde sur terre se détourne, et que tu sois le dernier juste qui reste, là encore, apporte le sacrifice et loue le Seigneur, toi qui restes le dernier. Et si vous vous retrouvez deux, eh bien voilà un monde entier. Un monde d'amour vivant, étreignez-vous. Si tu pèches toi-même et que tes péchés ou ton péché soudain te rendent triste jusqu'à la mort, réjouis-toi pour un autre, réjouis-toi pour le juste. Si la méchanceté des gens te remplit de révolte, d'indignation et d'une tristesse irrépressible jusqu'à vouloir se venger de ces méchants, va tout de suite et cherche-toi des tourments comme si tu étais toi-même coupable de leur méchanceté. Reçois ces tourments et souffre-les, et ton cœur en sera consolé. Ne crains ni les notables, ni les puissants, mais sois sage et toujours beau dans tes actes. Connais la mesure, connais le terme, apprends à les connaître. Baise la terre sans repos, aime d'un amour insatiable, aime tout le monde, aime tout, recherche cette exaltation et cette ivresse. Zosima est mort. Alyosha quitte définitivement le monastère. Il n'a pas revu son frère Dimitri depuis 2 jours. Il ne sait pas où il est, ce qu'il fait. Le livre 8 des frères Karamazov lui est entièrement consacré à Dimitri. On le retrouve en proie au doute, toujours désireux de récupérer l'argent que son père lui doit, et surtout très inquiet que ce dernier n'ait séduit Grushenka, la femme qu'il aime. Après avoir d'abord hésité, il court chez son père, comme un fou, persuadé que Grushenka s'y trouve. Le voici dans le jardin de la maison de Fiodor, en pleine nuit, se cachant derrière les buissons pour ne pas être vu ni de son père, ni des domestiques, ni même de Smerdiakov, son autre frère. Livre 8, chapitre 4. Il ne respirait pas. « Maintenant, il faut attendre, se dit-il. Ne pas tousser, ne pas éternuer surtout. » Il attendit 2-3 minutes, mais son cœur battait terriblement, et par instant, lui, il étouffait presque. « Non, il continuera de battre comme ça, se dit-il, je ne peux plus attendre. » Il se tenait derrière le buisson, dans l'ombre. La moitié avant du buisson était éclairée par la fenêtre. Doucement, à pas compter, silencieux, il s'approcha de la fenêtre et se mit sur la pointe des pieds. Toute la petite chambre à coucher de Fiodor apparut devant lui comme dans le creux d'une main. C'était une pièce minuscule, divisée en deux par un petit paravent rouge, et derrière le paravent, Grushenka. Il se mit à examiner Fiodor. Ce dernier portait sa nouvelle robe de chambre en soie à rayures que Mitya ne lui avait encore jamais vue, nouée à la ceinture par un cordon de soie à glands. « Endimanché, se dit Mitya. Fiodor se tenait près de la fenêtre, visiblement pensif. Brusquement, il redressa la tête, comme écoutant à peine, puis n'entendant rien, il s'approcha de la table, se prit un petit demi-verre de cognac et le but. Ensuite, il respira à plein poumon, resta à nouveau indécis, puis d'un air distrait, s'approcha de la glace du trumeau et remonta un peu de sa main droite le bandage rouge sur son front. Il est seul, se dit Mitya, selon toute vraisemblance, seul. Fiodor s'éloigne de la glace, se retourna soudain vers la fenêtre et regarda dedans. Mitya, en une seconde, avait bondi en arrière dans l'ombre. Elle est peut-être derrière son paravent. Elle dort déjà, peut-être. L'idée venait de lui piquer le cœur. Pourquoi est-ce qu'il regardait dans le noir? L'impatience, donc, qui le ronge. Mitya rebondit aussitôt et se remit à regarder par la fenêtre et observa avidement. Il est seul. Il est seul, répétait-il à nouveau. Si elle était ici, il n'aurait pas du tout cette tête. Chose étrange, une espèce de dépit absurde et fantastique se mit à bouillonner au fond de son cœur à l'idée qu'elle ne soit pas là. Mais l'angoisse de l'incertitude et de l'indécision grandissait dans son cœur à une rapidité extraordinaire. Elle est là finalement, oui ou non? Et soudain, il se décida. Il tendit la main et tout doucement tapota sur le cadre de la fenêtre. Le vieillard tressaillit, redressa la tête, bondit rapidement et se précipita vers la fenêtre. Mitya se rejeta dans l'ombre. Fiodor ouvrit la fenêtre et sortit toute sa tête. « Grushenka, c'est toi? C'est toi vraiment ?» murmura-t-il dans une espèce de semi-chuchotement tremblant. « Où es-tu, ma chérie? Mon petit ange, où es-tu ?» Il était dans une agitation terrible. Il haletait. « Seul !» trancha Mitya. « Où es-tu donc ?» cria à nouveau le vieillard, et il sortit la tête encore davantage. Il la sortit avec les épaules, scrutant de tous les côtés. « Viens ici, je t'ai préparé un petit cadeau, viens que je te le montre. » C'est le paquet de 3000. L'idée comme un éclair avait traversé Mitya. Il regardait de biais et restait immobile. Tout ce profil du vieillard qu'il détestait tant, toute cette pomme d'Adam pendante, ce nez crochu, souriant de son attente sensuelle, ses lèvres, tout cela était violemment éclairé par le rayon oblique de la lampe à gauche de la pièce. Une rage terrifiante, frénétique, se mit soudain à bouillir dans le cœur de Mitya. Le voilà, son rival, son bourreau, le bourreau de sa vie. C'est de l'afflux de cette rage la plus soudaine, la plus vindicative et la plus frénétique dont, l'appressentant, il avait parlé à Alyosha pendant sa conversation 4 jours auparavant, qu'il avait répondu à la question d'Alyosha. « Comment peux-tu dire que tu tueras le père ?»« Mais je ne sais pas. »« Je ne sais pas, » avait-il répondu. « Peut-être que je ne le tuerai pas, mais peut-être que je le tuerai. J'ai peur que je ne me mette à le haïr, d'un coup, à cette minute-là, avec cette figure qu'il a. » Je déteste, tu comprends, sa pomme d'Adam, son nez, ses yeux, son sourire indécent. C'est un dégoût personnel que je ressens. Voilà de quoi j'ai peur. J'ai peur de ne pas me retenir. Le dégoût personnel grandissait insupportablement. Mitya n'avait plus conscience de lui-même et d'un seul coup, il sortit de sa poche un pilon de cuivre. Le parricide a été commis, mais nous n'y assistons pas. Dostoïevski en fait l'ellipse dans son roman. Nous retrouvons Mitya juste après, surpris par Grigori, l'un des domestiques du père, qui a entendu un bruit et s'est levé. Il voit de loin une silhouette courir et se met à sa poursuite. Il parvient à le rattraper et reconnaît tout de suite l'homme, c'est Mitya, ce petit qu'il a lui-même élevé quand son père n'en voulait plus. De surprise, il le lâche et Mitya s'enfuit. Il a du sang plein les mains. Il sait cependant ce qu'il veut maintenant faire, aller trouver Grushenka et lui dire qu'il l'aime.
Viviane Forrester.
Ce qui est frappant tout de même, c'est que c'est Dostoïevski, par exemple, qui a écrit avant Freud, que tous les hommes veulent la mort de leur père.
Oui, il faut dire qu'il en savait quelque chose, hein, Dostoïevski.
Il en savait quelque chose, puisque son père est mort assassiné, en fait, par des serfs.
C'est, oui, mais lui-même s'est mais reproché tout
se
petit,
reprochait,
s'est reproché
persuadé,
d'avoir tué son père.
C'est-à-dire d'une façon très oedipienne, oui.
George E. Best.
Mitya court dans la nuit, vole de l'argent, rejoint une taverne et trouve la jeune fille. L'alcool coule à flot, la musique l'envahit, l'orgie commence. Mitya et Grushenka sont heureux, mais cette insouciance est de courte durée. Livre 8, chapitre 8.
Mitya, emmène-moi, prends-moi, Mitya, murmura Grushenka sans force.
Mitya se précipita vers elle, la saisit dans ses bras et courut derrière les rideaux avec sa proie précieuse. Il l'étendit sur le lit et colla ses lèvres sur les siennes dans un baiser.
« Ne me touche pas !» lui balbutiait-elle d'une voix suppliante. « J'ai dit que j'étais à toi, mais toi, ne me touche pas, c'est sale ici !»«
J'obéis !» marmonnait Mitya.
« Oui, c'est sale ici, oh,
c'est méprisable !» Et sans desserrer l'étreinte, il s'affaissa par terre à côté du lit, à genoux.
« Je sais que tu es peut-être un fauve, mais tu as le cœur noble, Mitya, » prononça Grushenka. « Il faut que ce soit honnête maintenant. Ce sera honnête, nous aussi. Il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit bon. Emmène-moi, loin, loin. »
« Oh oui, absolument, » disait Mitya, la serrant dans ses bras. « Je t'emmènerai, on s'envolera. Je donnerai ma vie. Grushenka, si tu veux que je sois honnête. Je suis un voleur, j'ai volé de l'argent. La honte, la honte. »
« Non, tu n'as pas volé. Prends-en chez moi de l'argent. Maintenant, tout ce qui est à moi, c'est à toi. C'est quoi pour nous, l'argent ? De toute façon, on va le gaspiller. Nous, toi et moi, on ira plutôt labourer. La terre, moi, je la gratterai avec ces mains-là. C'est travailler qu'il faut, tu entends ? Je travaillerai pour toi. »«
C'est toi que j'aime. Toi seul, » dit Mitya. « En Sibérie, je t'aimerai. »
« Pourquoi en Sibérie ? Remarque, en Sibérie aussi, si tu veux, c'est pareil, on travaillera. » Une clochette, tu entends ? Une clochette qui tinte. Des gens qui arrivent. Tiens, elle ne tinte plus.
Et elle ferma les yeux. De fait, il y avait une clochette qui tintait quelque part au loin et qui brusquement avait cessé de tinter. Mitya pencha sa tête sur sa poitrine. Il ne remarqua pas que les chansons s'étaient arrêtées soudain et qu'au lieu des chansons et du tintamarre aviné, c'est un silence de mort qui venait soudain de s'instaurer dans la maison.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Grushenka. « J'ai dormi ? J'ai fait un rêve. Je voyageais. Je te serrais dans mes bras. Je me serrais contre toi comme si j'avais froid. Je me réveille et mon aimé est près de moi. Comme c'est bien. »
« Près de toi, » marmonnait Mitya, embrassant sa robe. Sa poitrine, ses mains. Et brusquement, il eut comme une impression étrange. Il eut l'impression qu'elle regardait droit devant elle, au-dessus de sa tête, d'un regard fixe et étrangement immobile. Elle, c'est la surprise qui s'exprima sur son visage, presque de la frayeur.
Mitya, qui c'est qui nous regarde de là-bas ?
Mitya se tourna et vit que, de fait, il y avait quelqu'un qui avait écarté le rideau et qui était comme en train de les observer.
Par ici, je vous en prie, par ici, dit une voix ferme et appuyée.
Mitya sortit de derrière le rideau et se figea. Toute la pièce était pleine de monde, mais de ceux de tout à l'heure, non des gens complètement nouveaux. Un frisson immédiat le parcourut dans le dos et il tressaillit. Tous ces gens-là, il venait de les reconnaître à la seconde. Ce grand vieillard replet, c'était Lispravnik. Et ce dandy élégant, c'était le substitut du procureur. Et ce genou-là, ce petit gars, c'était le juge d'instruction. Et lui-là, le commissaire de police. Bon, et ceux-là avec leur médaille, c'est quoi ?
Messieurs, qu'est-ce qui se passe, messieurs ? Murmura Mitya.
Mais brusquement, comme hors de lui, comme malgré lui, il s'exclama tout haut, à pleine voix.
Je comprends.
Un jeune homme à lunettes s'avança et s'approchant de Mitya, il commença.
« Nous avons pour vous... Bref, je vous demande de venir par ici, là, vers le divan. Il existe une nécessité urgente que nous nous expliquions. »«
Le vieux ?» s'écria Mitya dans un état second.
« Le vieux et son sang ? Je comprends. »
Et il s'assit comme fauché net. Le petit juge d'instruction se tourna vers lui et d'une voix ferme, sonore et grave prononça.
Lieutenant à la retraite Karamazov, je dois vous déclarer que vous êtes accusé du meurtre de votre père, Fyodor Pavlovitch Karamazov, qui est advenu cette nuit.
Il voulait encore dire autre chose, le substitut du procureur. Lui aussi voulait y mettre un peu du sien. Mais Mitya avait beau écouter, il ne les comprenait plus. Il les fixait tous d'un regard frénétique. Tout amène à penser que Mitya est le meurtrier de son père. Mais l'enquête et le procès à suivre vont suggérer une autre piste. Smerdiakov, l'autre fils de Fyodor, était lui aussi présent dans la maison le soir du meurtre.
Ce portrait est très impressionnant. Il faut avouer que Perov est vraiment un portraitiste extraordinaire. Regardez comme il a su saisir tous les vices de Dostoïevski. Un gredin et une crapule comme il n'est pas possible. Pour lui, l'Europe est l'ennemi à abattre et tous les libéraux sont des traîtres à la Russie.
Si Dostoïevski entendait ce que vous venez de dire à son propos, il ferait sûrement une crise d'épilepsie.
Alors c'est vrai, il est épileptique? On me l'avait dit, mais je n'y croyais pas.
En ce qui me concerne, j'y réfléchirai à deux fois avant de serrer la main de ce monsieur. Dieu me pardonne.
C'est de la compassion que m'inspire son visage. Regardez ses yeux. Ce sont ceux d'un homme qui a souffert.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia, avec Delphine Baudet à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laura El Maki et Valérie Bourg.